Devant la fenêtre ouverte, au risque d'attraper un rhume, l'adolescent trépigne. Les heures passent avec une lenteur désespérante. La vieille dame ne se décidera-t-elle donc jamais à se coucher ? Elle écrit, écrit, écrit encore. Sans fatigue, dirait-on. Sans lassitude. À son âge, pourtant, on a besoin de repos. Pour la première fois de sa vie, Guillaume se ronge les ongles. Cependant, comme tout finit par arriver, même les choses qu'on attend le plus, la lampe rose s'éteint enfin. Il est presque 1 heure du matin. Guillaume retient son souffle. Son cœur bat à tout rompre. Ses paupières, si lourdes un instant auparavant, sont maintenant écarquillées. Quelques minutes s'écoulent, interminables. Dans le lointain, un cri s'élève. Le garçon frissonne. Est-ce la rumeur d'un crime, d'une agression nocturne, ou simplement l'écho d'un cauchemar ? Au même moment, un rayon de lune traverse les nuages. Sa clarté blafarde fait surgir du néant un porche immobile, un trottoir désert, la carcasse dépouillée d'un arbre, et éclaire la scène de plein fouet. Guillaume fixe si intensément le portail de l'immeuble que l'image se brouille. « Ah ! » s'exclame-t-il soudain. Une décharge électrique lui crispe les orteils, rayonne jusqu'à son estomac. Le portail s'ouvre. La jeune fille aux longs cheveux s'en échappe. Guillaume emplit ses poumons d'air. « Hé ! Mademoiselle !» L'appel déchire la nuit urbaine, mais la jeune fille ne se retourne pas. Elle semble trop pressée pour se laisser distraire, et comme d'habitude part en courant. Elle ne doit pas avoir plus de 15 ans. Une grande cape noire l'enveloppe du cou aux chevilles, ne laissant dépasser que ses chaussures, des escarpins à talons hauts terriblement démodés. Les petits pieds chaussés de ces escarpins-là claquent à toute vitesse sur le pavé mouillé. Tac, 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 marteau de xylophone. « Mademoiselle, mademoiselle !» s'égosille Guillaume en pure perte. Ou elle n'entend pas, ou elle ne veut pas entendre. Ses mèches brunes tressautent dans son dos au rythme de sa course. Elle ne va pas tarder à tourner le coin de la rue. Un instant décontenancé, Guillaume se ressaisit très vite. Par chance, il est encore habillé. Ça lui fera gagner du temps. Le plus silencieusement possible, il quitte sa chambre. Pas un bruit dans la maison. Ses parents dorment certainement. Il décroche son blouson, l'enfile, et sur la pointe des pieds gagne la porte d'entrée. Puis une fois dehors, il se précipite sur les traces de la mystérieuse inconnue. Elle a déjà atteint l'avenue Émile Zola. Tac, 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 font les talons dans le silence nocturne. Mademoiselle ! Elle longe le square, remonte vers la mairie. Lorsqu'elle passe sous les réverbères, la lumière ruisselle dans ses cheveux. Guillaume commence à s'essouffler. Parole ! Il n'a jamais vu une fille courir comme ça ! 100 mètres plus haut se dresse la bibliothèque, imposant bâtiment du début du siècle, auquel on accède par un escalier. Sans hésiter, la jeune fille l'emprunte. Où va-t-elle donc ? C'est fermé à cette heure ! Laissant l'entrée principale sur sa gauche, elle contourne l'édifice et Guillaume la perd de vue. Quand il y parvient à son tour, elle a disparu. Il la cherche des yeux dans les ténèbres alentours, scrute en vain la nuit qui l'environne, et n'aperçoit qu'une petite porte. Une insignifiante petite porte dans le flanc de la bibliothèque. Sans grand espoir, elle tourne la poignée. La porte s'ouvre. Tac-tac font les talons, très loin dans les profondeurs des couloirs. Guidé par le bruit, Guillaume reprend sa poursuite. Un labyrinthe de corridors s'enfonce dans l'obscurité. Ça et là, de hautes fenêtres répandent une faible clarté. Leurs reflets, rectangles blêmes projetés sur le sol, dessinent les cases d'une étrange marelle que Guillaume, malgré sa hâte, évite de piétiner. Quels êtres invisibles y sautaient à cloche-pied avant son arrivée ? De quel fantôme a-t-il interrompu le jeu ? Un frisson le parcourt de la tête aux pieds. Tout au bout, les petits pas s'estompent peu à peu. Malgré la peur qui maintenant lui tenaille le ventre, Guillaume s'obstine, et c'est hors d'haleine qu'il parvient à ce qui semble être le fond du couloir. Le fond ? Non. Le couloir tourne et aboutit dans une immense pièce, violemment éclairée. Les yeux de l'adolescent, habitué à la pénombre, clignent douloureusement tandis qu'il y pénètre. L'endroit est extraordinaire. Des rayonnages couvrent les murs et s'alignent les uns derrière les autres, formant d'étroites allées. Combien y a-t-il de livres ici ? 10 000 ? 100 000, 1 million? Une odeur de vieux papier, à la fois âcre et doucereuse, émane du fantastique amas d'ouvrages, dont certains ont plus d'un siècle. Couvertures de cuir, de tissu, de carton aux tranches dorées, parchemins roulés, éditions rares et volumes populaires pleins de naïves illustrations. Tout le savoir du monde semble rassemblé ici. La somme des connaissances humaines emplit cette salle, noyau lumineux au cœur de la bâtisse obscure. Et ce noyau, par le plus grand des hasards, Guillaume vient d'y avoir accès. Même lorsqu'on n'aime pas lire, et il n'existe pas de plus mauvais lecteur que Guillaume, à part la BD, tout ce qui est inscrit sur du papier lui donne des boutons. Un lieu pareil vous impressionne. C'est donc la gorge nouée et sur la pointe des pieds que le garçon pénètre dans le sanctuaire. Où est passée la jeune fille? Quelque part au milieu de ses archives, sans doute. Mais comment la trouver? L'appeler, c'est la seule solution. Ouh, mademoiselle! La voix de Guillaume résonne si bizarrement, à la fois étouffée par les livres et répercutée par d'insolites échos, qu'il en a la chair de poule. Il insiste cependant. « Mademoiselle, mademoiselle, répondez-moi » Un « chut » agressif derrière lui le fait sursauter. La fuyarde aux longs cheveux, les yeux pleins de colère, l'apostrophe sans ménagement. « Arrête de crier comme ça, idiot! Tu vas alerter le gardien !» Un palourd l'interrompt, suivi d'une grosse voix.
« Que se passe-t-il ici? Qui a allumé l'électricité ? » grommelle-t-on à l'autre bout de la pièce.
« Bravo, tu as gagné !» chuchote la jeune fille. Elle s'accroupit entre les rayonnages, entraînant Guillaume avec elle. « Cache-toi, et surtout ne fais pas de bruit !» Il obéit, subjugué. Respire, avec une sorte d'ivresse, la présence de l'inconnu à ses côtés, son parfum de vanille, de cannelle, de violette, une désuète odeur de grand-mère sur la fraîche peau d'une adolescente, et ne peut s'empêcher de toucher ses cheveux du bout des doigts. « Ne te gêne surtout pas, proteste-t-elle tout bas !» Entraînant les pieds, le gardien sillonne les allées. La jeune fille se ratatine menu, prête à disparaître dans un trou de souris. Le gardien se rapproche de plus en plus près. Il n'est plus qu'à quelques mètres des intrus. Ses chaussures cloutées martèlent le sol, et chaque pas fait sursauter nerveusement la jeune fille. Mettant en pratique la politique de l'autruche qui consiste à ne rien voir pour se donner l'illusion de n'être pas vu, Guillaume ferme les yeux. « J'ai dû oublier d'éteindre tout à l'heure, ronchonne l'homme. Il n'y a personne. Ce sont mes nerfs qui me jouent des tours. Être tout seul la nuit dans ce grand bâtiment vide ne me réussit pas. Si en plus des planchers qui grincent, des murs qui craquent, des souris qui rongent, je me mets à entendre des voix. » Il fait demi-tour et s'éloigne tout en continuant. Comme si les vieux bouquins attiraient les voleurs. Un tas de paperasse sans intérêt. Je suis bien bête de m'en faire. Tout ce que je vais y gagner, c'est une bonne insomnie. Son monologue s'éteint tandis qu'il regagne sa loge. « Filons !» dit la jeune fille, une fois qu'il a disparu. En rampant, elle prend le chemin de la sortie, suivie de son compagnon dont le cœur bat la chamade. Est-ce la peur d'être surpris ou la proximité de celle qui hante ses pensées, qui le met dans cet état? Le corridor, la marelle des ombres, tac tac font les talons qui précèdent Guillaume. Toc toc répond son cœur en écho. Des rythmes de xylophone emplissent le labyrinthe obscur. Enfin, ils atteignent la porte. Ouf ! Sauvé. 2 heures du matin sonnent au clocher de l'église. Côte à côte, les adolescents remontent le boulevard. Dans les arbres du square voisin, la sinistre plainte du vent ressemble au hurlement des loups dans les plaines du Grand Nord. Pas une voiture, nul passant. Ce quartier, si familier en plein jour, paraît soudain inconnu à Guillaume, qui le parcourt pourtant quotidiennement. On dirait un décor de théâtre, une irréelle toile de fond qui éclaire des réverbères factices, un projecteur lunaire et devant laquelle déambulent 2 acteurs novices. « Comment t'appelles-tu » demande Guillaume pour rompre le silence. « Ida. Et toi ?»« Guillaume, ça fait des semaines que je te regarde partir tous les soirs. Je me demandais où tu allais. » Ida hausse les épaules et ce mouvement suffit à faire ondoyer dans sa chevelure 1000 reflets mouvants. « Eh bien, tu le sais maintenant, vilain curieux !» Le garçon fait la moue. « Je n'ai pas appris grand-chose. » Je crois même que tu m'intrigues encore plus qu'avant. » Elle rit. C'est le plus joli rire que Guillaume ait jamais entendu. Il en est tout ému. « Pourquoi te sauves-tu dès que la vieille dame éteint la lumière ? » demande-t-il doucement. « Que vas-tu faire dans cette bibliothèque ? Et qui es-tu d'abord ?» Il se regarde. Les yeux d'Ida, de jolis yeux couleur noisette, sont pleins de malice. Dans son visage triangulaire, son sourire, accent circonflexe inversé, s'encadre de fossette. On dirait l'empreinte de doigts invisibles, relevant comiquement les 2 coins de sa bouche. « Je suis la vieille dame, » dit-elle simplement. « C'est ça, moque-toi de moi. Dans un instant, tu vas m'annoncer que tu as 80 ans. »« 84 ?» Pour ne pas la contrarier, Guillaume rentre dans le jeu. « Franchement, tu ne les fais pas. On te donnerait plutôt entre 15 et 16. Tu es bien conservée pour ton âge. »« T'as rien compris, pauvre cloche, » pouffe la jeune fille. Elle a l'air de s'amuser beaucoup, aux dépens de son compagnon. Blessé par son ton ironique, celui-ci se renfrogne. « Ils marchent très lentement. Ni l'un ni l'autre n'a envie de rentrer. Est-ce la magie de cette nuit d'automne, de cette rue immobile, de l'aventure qu'ils viennent de vivre, ou simplement le plaisir d'être ensemble et de se chamailler dans l'ombre complice? Ils atteignent la place du marché, curieusement dépourvue des étals de forains qui l'encombrent d'ordinaire. Encerclés de bancs et de néons, ce terre-plein dont une fontaine occupe le centre évoque plus que jamais une scène de théâtre. « On s'assied ?» propose Guillaume. La fille acquiesce. Malgré le froid mordant, ils s'installent. Le bois humide leur glace les cuisses, les fesses, à travers leurs vêtements. « Brrr !» fait Ida, rassemblant sa cape autour d'elle. Elle rabat son capuchon sur sa tête. Ainsi emmitouflée, elle ressemble à un moignon. C'est à peine si le bas de son visage transparaît, ovale ivoire, noyé dans l'ombre. Un long moment, les deux ados restent sans parler. Puis, comme à contre-cœur, Ida se dessine. « Tu veux que je te raconte mon histoire ?» demande-t-elle à mi-voix. Il fait oui de la tête, avec une impatience qu'il maîtrise mal. « Je te préviens que tu ne me croiras pas, » ajoute-t-elle. « Je te promets que si, même si ça te semble invraisemblable, jure-le. » Il jure, en crachant par terre. Ce genre de serment ne se trahit pas, sous peine des pires abominations. « Ce que tu vois, ce n'est pas moi, » poursuit-elle. « Moi, en ce moment, je dors dans l'appartement en face du tien. » J'ai 84 ans, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai été jeune, il y a bien des années. J'avais cette apparence. Elle se désigne. J'étais jolie, non ? Très, affirme Guillaume, avec ferveur. Depuis quelques mois, je rédige mes mémoires. J'en suis arrivée à la jeune fille qui est devant toi. C'était en 1926. Ce parfum démodé, ses chaussures, ses singuliers habits. Guillaume repense au film, ayant pour cadre les années folles qu'il a pu voir à la télé. Effectivement, les héroïnes portaient ce genre de tenue. En ce temps-là, j'avais déjà le désir ardent qui ne m'a jamais quitté depuis. Quel désir ? Écrire. Comme elle a dit ce mot gravement. Surpris, son interlocuteur scrute avec attention l'ombre sous sa capuche. Deux yeux y brillent, trop, deux yeux où tremblent. Mais oui, ce sont des larmes. Tu pleures ? Elle s'ébroue. Ce n'est rien, juste un peu de tristesse. Je n'ai jamais pu réaliser mon rêve. Aussi clairement que s'il l'avait devant lui, Guillaume revoit la vieille dame penchée sur son cahier derrière le rideau de dentelle. « Mais tu ne fais que ça, écrire » sourit-il. « Mes mémoires, ça ne compte pas, voyons. Ce que je voulais, c'était être romancière. Et pourquoi ne l'es-tu pas devenue ?» Elle soupire. « Je n'ai jamais trouvé le grimoire, » murmure-t-elle. Dans le ciel, des bandes de corbeaux passent en croissant. Ils fendent la nuit de leur vol lourd et disparaissent derrière le clocher de l'église. Un silence de mort succède à leur cri discordant. « Le grimoire ?» répète Guillaume. « Quel grimoire ?» Celui qui donne accès à la littérature. Sur l'un des arbres de la place, un merle se met à chanter. Sa trille s'élève, tournicote, retombe en mille paillettes harmonieuses, feu d'artifice sonore. « Comme c'est joli !» s'extasie Ida. « Je ne comprends rien à ton histoire, avoue Guillaume. » C'est pourtant simple. Il existe un livre, quelque part, qu'il faut posséder pour devenir écrivain. Ils l'ont tous eu entre les mains avant de commencer leur carrière. Baudelaire, Rimbaud, Dumas, Balzac, Saint-Exupéry. Mais j'ignore où ils se le sont procurés. Elle attrape une mèche luisante qui sort de sa capuche, l'entortille autour de son doigt d'un geste agacé. « Si tu savais comme j'ai cherché, j'y ai passé ma vie. Et je continue ?» « C'est donc ça que tu fais toutes les nuits dans la bibliothèque ?» s'exclame Guillaume, comprenant soudain. Ida hoche affirmativement la tête. « Comment as-tu trouvé le moyen d'y rentrer ?»« Facile. Je suis l'ancienne bibliothécaire. Durant un demi-siècle, j'ai vécu dans les livres. Je les connais tous, comme un jardinier connaît chaque fleur de sa serre, chaque massif de son jardin. Ils n'ont pas de secret pour moi, et pourtant, j'ai eu beau fouiller, les consulter les uns après les autres, tenter de lire entre leurs lignes, ce fut l'échec. » « Je n'ai pas découvert le grimoire. » Le doigt qui tiraille les cheveux s'exaspère. « Et pourtant, je sais qu'il existe. Mais où est-il ? Où est-il ? » Ses yeux couleur noisette sont de plus en plus brillants. Les larmes en débordent maintenant, en inondent ses joues. « Il me reste si peu de temps, Guillaume, » murmure-t-elle. Un élan de compassion le projette vers elle. Il la prend dans ses bras, la serre contre lui. Elle pose sur son épaule sa petite tête encapuchonnée, tellement pathétique. « si peu de temps, » sanglote-t-elle. « Pourquoi dis-tu ça ? Tu es jeune. » « Mon double est jeune, pas moi. » Ce double est un fantasme. Il s'échappe la nuit pour poursuivre ma quête, mais n'existe que dans ma mémoire, dans mes mémoires, celles que tu me vois rédiger chaque soir. D'une main tremblante, le garçon caresse les épaules si réelles pourtant de sa compagne. Quand la vieille dame que tu connais se réveillera, je disparaîtrai. Je rentrerai entre les pages du cahier où elle raconte, où je raconte, les événements de sa jeunesse. Et je redeviendrai une octogénaire perclue du rhumatisme qui ressasse ses regrets. Guillaume ne répond pas. Cette détresse le bouleverse. Il se promet de rendre visite à sa voisine demain, de parler avec elle, de lui faire raconter ses souvenirs. Les personnes âgées ont tant de choses à nous apprendre sur les époques passées, et cela leur fait si plaisir quand on prend le temps de les écouter. Une chose pourtant tracasse encore l'adolescent. C'est exprès que tu as choisi cet âge pour revenir. Qu'est-ce qui t'empêche de continuer tes recherches en chair et en os sous ton apparence de grand-mère ? Tout d'abord, mon état de santé. Je n'ai plus la force de sortir de chez moi. Ça ne me dit pas pourquoi tu es adolescente. Tu aurais pu décider d'avoir 30 ou 40 ans, par exemple. Les seuls livres que j'ai négligés lorsque j'étais bibliothécaire, ce sont ceux destinés aux jeunes. Je ne les trouvais pas intéressants. Adulte, il me manquait la fraîcheur d'âme nécessaire pour les apprécier. Ce fut sans doute mon erreur, une erreur que je tente désespérément de réparer aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard ? Je n'en ai plus pour très longtemps à vivre, tu sais. Elle relève la tête, fixe son compagnon de ses larges prunelles. Guillaume, je suis sûre que le grimoire est parmi eux. Elle lui prend la main, suppliant tout à coup. Aide-moi, s'il te plaît. Oui, répond-il, bouleversé. Toute seule, je n'y arriverai jamais. Je te promets de faire mon possible. Elle sourit à travers ses larmes. Dans les fossettes mouillées, l'eau s'accumule comme dans de mignons réservoirs. Une furieuse envie d'y coller sa bouche et de boire cet élixir salé saisit Guillaume. Mais il résiste. Les fantasmes sortis de la mémoire des vieilles dames se laissent-ils embrasser la nuit par des garçons réels ? Merci, murmure la jeune fille de toute son âme. Et c'est elle qui l'embrasse. Deux lèvres, deux papillons légers légers aux ailes frémissantes se posent sur sa joue. Dans l'ombre de la capuche, l'espoir transfigure la trémousse d'Ida. C'est à cet instant précis que le clocher sonne 3 heures. Guillaume réprime un bâillement. « Je vais encore ronfler demain en cours, » assure-t-il en levant la tête vers la grosse horloge. « Mais que se passe-t-il ? » Sous son bras qui pressait le dos de la jeune fille, ne sent plus rien tout à coup. « Que du vide ! » Ida a disparu. Est-ce le claquement de ses talons que Guillaume entend dans le lointain ? Non. La jeune fille ne court pas comme à son habitude. Elle s'est évaporée. Les songes au réveil se dissolvent de cette manière. Et de toutes ces choses qui semblaient si vraies, il ne reste qu'une vague impression, prompte à s'estomper dans l'agitation du lever. Guillaume aura-t-il oublié Ida demain matin ? Il se jure que non. Et comme un automate, il se dirige vers chez lui. La clé qu'il tâte dans la poche en marchant le raccroche seul à la réalité.